Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et je vous remercie de prendre part au grand titre du jour en ce mercredi 6 juillet. Veuillez noter que les grands titres du jour concernent les gens de foi et les citoyens de bonne foi. Aujourd'hui, il est question des échecs des garçons en milieu scolaire, de l'identité sexuelle sur les passeports, des compilations reliées à l'euthanasie, des défis de l'Uruguay face à la légalisation du cannabis, des voisins barbares, des mariages célébrés par un proche, et de la bonne nouvelle du jour. Débutons par cet article qui a été publié sur la plateforme du Devoir et qui s'intitule « Échec des garçons à l'école, le comportement des profs a changé ». Et oui, voici ce que nous dit le Devoir. Les professeurs vont dire que les garçons et les filles ont des besoins différents, que l'école n'est pas faite pour les garçons, que l'école est trop féminisée et que tout ça concourrait à expliquer que les garçons ne se reconnaissent pas à l'école, explique la chercheuse du CSF, Hélène Charon. Cela a pour conséquence qu'on va davantage encourager les filles à pratiquer des sports. Ce qu'on apprend également dans cet article, et cela, ça révèle un peu le biais du Conseil du statut de la femme, qui a déterminé que les différences de classe jouent un plus grand rôle que les différences de genre. Et ça, c'est suite à des enquêtes qu'ils ont menées auprès d'enseignants dans différentes écoles. Mais pour avoir enseigné, moi, en milieu scolaire, pour avoir été pasteur jeunesse, pour avoir travaillé dans des organismes qui faisaient affaire avec des jeunes, eh bien, je peux vous dire une chose. Moi, je crois qu'on doit séparer les garçons et les filles au niveau secondaire. Du secondaire 1 à 4, j'étais dans une école publique où est-ce qu'il y avait simplement des garçons. Et en secondaire 5, c'était mix, et je peux vous dire que l'atmosphère a changé du tout au tout. Ici, le Conseil du statut de la femme veut s'assurer qu'il n'y a de moins en moins d'écart entre les garçons et les filles, mais ce n'est pas en formant un genre de unisexe ou d'identité centrale qu'on va régler la question, mais au contraire, c'est en offrant des services qui sont beaucoup plus pointus, beaucoup mieux adaptés aux réalités des garçons et d'autres services qui sont mieux adaptés aux réalités des filles, puisque les garçons et les filles, eh bien, sont constitués de deux physiologies différentes et donc on doit les approcher pédagogiquement de deux façons différentes. Mais ce n'est pas pour rien qu'on se pose ces questions-là parce que, savez-vous quoi? Notre cher gouvernement se pose la question. Est-ce qu'on doit encore identifier les hommes et les femmes sur les passeports et même sur tous les documents gouvernementaux? Alors, on se pose la question. Est-ce que ça doit être identifié sur nos passeports? Selon ce que nous dit le Devoir dans un article intitulé « Homme ou femme, pourquoi poser la question? » Eh bien, la présidente de la Commission canadienne des droits de la personne estime qu'il est grand temps que le gouvernement fédéral s'interroge sur la pertinence de demander encore aujourd'hui aux citoyens s'ils sont des hommes ou des femmes. Cette conception binaire de la société heurte les personnes transgenres et n'est peut-être pas utile. Ce qu'on nous dit plus loin, c'est que certains s'en plaignent parce qu'étant en processus de transition, il est difficile de répondre à la question. D'autres déplorent que la présence de cette case impose aux personnes transgenres de faire modifier leurs documents lorsqu'ils changent de sexe. D'autres, enfin, n'aiment pas devoir choisir un sexe alors qu'ils ne s'identifient à ni l'un ni l'autre en totalité. Et savez-vous comment finit l'article? Mais nous invitons les organisations à penser à cela attentivement. Les personnes transgenres nous ont dit que s'ils sont obligés de cocher X, elles seront forcées dans les faits à se révéler. Et cela aussi pourrait déranger. Et quand on dit ici « cocher X », c'est qu'une des solutions qu'on propose, c'est de permettre le choix « homme, femme ou X ». Et donc, certains transgenres se disent « ben non, moi je ne veux pas m'identifier à un sexe ou l'autre ». Alors ce qu'on propose, c'est « bon, on va ajouter une autre case ». Non, parce que si je mets « X », ça veut dire que je ne veux pas m'identifier à un homme ou une femme, puis on va le savoir. Alors, ça mène à un cul-de-sac, mesdames et messieurs. Et pourtant, ce serait si simple, hein? Je suis né un homme, je suis un homme, j'apprends à vivre une réalité d'homme. je suis né femme, eh bien, j'apprends à vivre avec ma réalité de femme. Et voyez-vous, plus on complexifie la vie en société, eh bien, plus c'est difficile à gérer. Mais au bout de la ligne, une personne qui accepte son sexe et qui est fière ou qui désire s'identifier à son sexe ne pourrait plus le faire parce que ça dérange certaines minorités. Est-ce que c'est juste? C'est une question à se poser, mesdames et messieurs. C'est une grande question de société. Mais savez-vous quoi? Il n'y a pas simplement qu'au niveau de l'identité sexuelle qu'il y a des choses complexes. On retrouve certaines complexités dans le monde de la santé. Et oui, dans un article intitulé « Pas de compte à rendre en cas de refus », cet article a été publié sur la plateforme du Devoir, et on nous parle des complications administratives reliées à l'euthanasie. Effectivement, parce qu'il y a des demandes d'euthanasie qui ne se sont pas rendues ou qui ne se sont pas exécutées, eh bien, on veut revoir tout le mécanisme bureaucratique pour s'assurer que chaque demande est respectée. Maintenant, pour arriver à quelque chose de vraiment sérieux, il va falloir instaurer une bureaucratie complexe. Mais le problème avec ça, c'est que si on investit des ressources dans cette bureaucratie complexe, eh bien, on va devoir couper des ressources à d'autres niveaux qui requièrent des soins assez importants. Moi, ce que je crois, là où est-ce qu'on doit investir de l'argent, c'est dans les soins palliatifs, pour s'assurer qu'en fin de vie, on puisse alléger les souffrances et offrir une fin de vie qui respecte la dignité humaine. C'est là qu'on doit investir, mesdames et messieurs. Un autre pays fait face à d'autres problèmes, et certainement ces problèmes vont nous rebondir. Ils vont nous rejoindre ici au Canada. Eh bien, c'est l'Uruguay. Encore une fois, sur la plateforme du Devoir, on peut lire cet article intitulé « L'Uruguay face au défi de la légalisation du cannabis ». Eh bien, vous savez que ce pays est en droit de vendre sur le marché libre de la marijuana. Et non seulement de vendre du cannabis, mais il est aussi légal d'en produire et d'en consommer. Mais il y a des complications parce que les pharmacies n'osent pas en vendre sur leur tablette parce que ils deviennent les compétiteurs du marché noir. Et donc, ça peut causer de sérieux problèmes. Et je vous invite à lire cet article-là. De manière générale, au moins 60 % des Uruguayens s'opposent encore à la régulation de la marijuana, comme d'ailleurs l'actuel président de gauche, Tabaré Vázquez, un cancérologue de 76 ans. C'est à suivre, mesdames et messieurs. Rapidement, sur la plateforme du Journal de Montréal, on peut lire un excellent article qui s'intitule « Mon voisin le barbare » par Mathieu Boccoté. Il nous parle de ces gens qui, par exemple, dans les cafés ou dans les lieux publics, vont se mettre à parler fort ou mettre de la musique à tue-tête ou écouter des bandes vidéo à un niveau de décibels qui dépasse la quiétude d'esprit. Alors, je vous invite à lire, c'est savoureux. Voici un autre article intéressant, mais celui-ci, on le retrouve sur la plateforme du journal La Presse. Les mariages célébrés par un ami ou un parent continuent de gagner en popularité. Et oui, les mariages religieux baissent en pourcentage, en nombre, mais ceux qui sont célébrés par des proches ou des amis, eh bien, continuent à grimper en popularité. Simplement pour vous donner un ordre d'idée, un ordre de grandeur, eh bien, en 2002, 71% des mariages étaient célébrés religieusement, alors que maintenant, il s'établit à 44%. Et je vais terminer avec la bonne nouvelle du jour. Eh bien, cet article se retrouve également sur la plateforme de La Presse et il s'intitule « L'exercice physique aide à consolider les connaissances ». Eh bien, voici ce que nous dit La Presse, selon une nouvelle étude néerlandaise. Pour mieux se souvenir des notions que l'on vient tout juste de mémoriser, il suffit de s'entraîner 4 heures plus tard, selon une nouvelle étude néerlandaise. Alors, je vous invite à lire cet article qui est fort intéressant, pas très long à lire, mais riche en contenu. Avant de vous quitter, laissez-moi vous rappeler que les liens reliés aux articles cités dans le cadre de cette émission sont accessibles sur Décentrer le discours et sur ma page Facebook via le www.ericlantier.net. C'est le www.ericlantier.net. Sur ce, mesdames et messieurs, bonne lecture, bonne réflexion et bons échanges avec les gens de votre entourage. Pour ma part, je vous dis à demain!